Vous écoutez la radio des descendants africains au Canada, Mucho. Mon nom est Marat Naïmana, je suis votre jeune journaliste à la présentation de l'émission Impact. Notre invitée du jour est Laïssa Armel Pamou, autrice du livre Au Canada, immersion dans un pays en mutation. Bonjour Laïssa.
Bonjour Marat.
Bonjour. Donc vous vous présentez comme une enfant du voyage. Que pouvez-vous partager sur votre voyage de votre pays natal du Cameroun au Canada?
Déjà, je me présente comme enfant du voyage parce que le voyage est intrinsèquement lié à ma vie, à travers ma maman déjà. Mon tout premier voyage, grand voyage, je n'avais que 3 mois d'âge. Et ma maman, voyageant énormément, j'ai grandi sur la route. Après mes études primaires et secondaires au Cameroun, j'ai fait le choix d'étudier à l'international. Ça, c'était le choix de mon père. S'il faut être un peu plus précis, là, mon père a dit, ce serait bien que tu étudies à l'international. Et le choix de la destination est le tien. Tu choisis le pays qui te convient. N'étant pas forcément, n'ayant jamais envisagé de m'installer pour une longue période dans un pays, j'aimais voyager, mais j'aimais revenir à la source, si on va dire ça comme ça, en cherchant les destinations qui puissent correspondre à moi, mes aspirations, parce que au-delà de l'aspect académique, je voulais un pays qui me parle, qui va me grandir. Au-delà du diplôme qu'on obtiendrait à l'université. Et le Canada, de par son histoire, de par sa complexité, de par sa taille, est le pays qui m'a le plus convaincue en ce sens-là et dont je suis arrivée à Winnipeg, au Manitoba, en 2014 pour l'année académique qui débutait l'automne 2014. Et j'ai étudié à l'université de Saint-Boniface, ici en administration des affaires.
Et vous avez parlé de Manitoba. Et ma question était, pouvez-vous nous parler de votre présentation du livre à l'atelier sur la vérité et la réconciliation au Manitoba?
Au Manitoba, j'ai été conviée par l'Amicale de la francophonie, qui est une organisation, évidemment, qui promeut les communautés francophones du Manitoba. C'est une des organisations, parmi bon nombre d'organisations, bien évidemment, qui font ce travail-là. J'ai été conviée, ils avaient une activité liée à la réconciliation et c'était quand même, j'ai envie de dire, ça, c'est un bon jumelage dans la mesure où mon ouvrage Au Canada, immersion dans un pays à mutation, qui est mon 5e, il faut le préciser, traite de ces sujets-là aussi, parce que partant de l'optique qu'il faille raconter le Canada à travers les vécus des gens qui sont au Canada, on commence bien évidemment par tout ce qui est lié aux peuples autochtones, aux Premières Nations, et par la suite, les périodes d'exploration, de colonisation et le Canada tel que nous l'avons aujourd'hui. Donc, cette collaboration avec l'Amicale de la francophonie du Manitoba est l'occasion de présenter à cette francophonie manitobaine qui m'a accueillie, qui m'a vu grandir d'un point de vue scolaire, d'un point de vue professionnel, parce que ma carrière dans les médias, l'essentiel a été ici à Winnipeg, au Manitoba, donc présenter l'ouvrage pour lequel je suis partie pendant 3 années, mais aussi dédicacer quelques copies pour ceux et celles qui vont être intéressés.
Comme nous sommes déjà sur le thème de votre livre, parlez-nous de votre livre et du choix du titre Au Canada, immersion dans un pays en mutation.
Je l'ai mentionné dans la question précédente. En 2023, j'ai décidé d'aller à la réalisation de cet ouvrage qui est la concrétisation d'un rêve que j'ai chéri. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai choisi le Canada parce que c'est un pays qui m'a intriguée, qui m'a parlé, qui m'a cherché humainement de par la complexité de son histoire. J'ai étudié ici et j'ai travaillé dans des médias, une très bonne combinaison qui m'a aussi donné les outils pour comprendre le Manitoba, le Canada d'une certaine manière. Mais j'avais soif d'autre chose, j'avais soif de profondeur, j'avais soif de plus de substance. Et cette substance-là, je ne pouvais pas l'avoir dans les fonctions qui étaient les miennes, notamment en 2023, lorsque j'entreprends cette initiative. Je suis déjà chef d'antenne à Radio-Canada au Manitoba, un travail qui m'a nourri énormément d'un point de vue intellectuel, mais j'ai besoin de plus. Et j'ai des circonstances qui se présentent et qui me font finalement me jeter à l'eau et faire ce dont j'ai rêvé pendant plus de 10 ans, à savoir explorer le Canada dans sa profondeur. L'actualité au Manitoba étant également à cette époque-là une actualité qui s'inscrivait dans des moments historiques de la vie d'une province avec l'élection de Wapkino, mais aussi on sortait d'une pandémie de COVID-19 qui avait quelque peu chamboulé nos façons de fonctionner, nos façons de percevoir notre société. J'ai commencé l'aventure au Manitoba et cela m'a amené tour à tour dans les autres provinces, que ce soit l'Alberta, la Colombie-Britannique, les territoires du Nord-Ouest et par la suite le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec et les autres provinces également que j'avais déjà eu la chance d'explorer. Alors que je n'avais pas entrepris le projet officiellement, on peut citer comme ça la Saskatchewan et d'autres contrées du pays.
Vous avez mentionné plus tôt dans l'interview que c'était votre cinquième ouvrage, et donc vous êtes sûrement habitué aux réceptions de vos livres et aux commentaires des lecteurs, mais quelles ont été les réceptions de ce livre et quels ont été les commentaires des lecteurs pour ce livre que vous avez récemment sorti?
Il faudrait déjà préciser que les lecteurs me découvrent sous un autre prisme, parce que mes précédents ouvrages, je les ai publiés en étant journaliste. Et quand on est journaliste et qui plus est encore chef d'antenne pour le média Capitaux Publics, on a des contraintes qui font en sorte qu'on n'est pas capable de produire un type de contenu. Or, cet ouvrage-ci, il se démarque de par le type de contenu, de par son volume, de par la charge de travail qui a été nécessaire pour le réaliser. Et donc, de fait, les commentaires, il y a l'appréciation au niveau, ça fait plaisir de savoir que la production continue, mais il y a également une découverte. Je vois dans les regards ou dans les commentaires des personnes qui ont lu mes précédents ouvrages ou qui ont suivi mon parcours, une redécouverte. Vous voyez, parce qu'on est quand même là sur un ouvrage qui combine un travail journalistique de terrain, un travail de recherche pour mettre les récits dans des contextes, qu'ils soient historiques, qu'ils soient des contextes statistiques, qu'ils soient des contextes d'actualité, de géopolitique nationale, internationale, et un travail également artistique parce qu'il y a des images, des photos. Vous voyez, donc c'est une combinaison de compétences dont les retours que je reçois et ceux depuis même l'envoi des manuscrits aux maisons d'édition, c'est déjà une admiration par rapport à l'ampleur du travail. Nombreuses sont des personnes qui peuvent nourrir de telles aspirations, mais du fait de la grandeur du Canada, c'est pas facile de se lancer et je suis également très attentive aux personnes qui finalement découvrent le Canada à travers ma plume, à travers les photos que je propose dans cet ouvrage-là. Ça me réjouit de voir des personnes voyager avec moi finalement. Donc ce sont ces retours-là que je reçois et c'est le travail de vulgarisation que j'espère également poursuivre à travers des initiatives comme des entrevues que j'ai actuellement avec vous.
Vous parlez de votre historique en tant que journaliste et en tant que chef d'antenne, notamment chez l'organisation que vous avez mentionnée qui était...
Ici Radio-Canada.
Voilà. Et donc, je me demandais, est-ce que vous parlez souvent de votre parcours dans les médias? Avez-vous l'occasion de partager?
Dans les médias, absolument, parce que l'ouvrage en lui-même, comme je l'ai dit, s'appuie sur mon parcours journalistique. Une de vos collègues m'a posé la question, collègue journaliste, je veux dire, m'a posé la question, est-ce que j'aurais pu réaliser un tel ouvrage si je n'avais pas été journaliste? Ma réponse de but en blanc, c'est non, j'aurais pu réaliser un ouvrage, mais pas celui-ci. Voyez-vous, cet ouvrage est l'accomplissement d'un travail journalistique. Donc, en parlant de cet ouvrage, les personnes qui achètent cet ouvrage, qui lisent cet ouvrage, de fait, découvrent mon parcours journalistique. Et là, je suis en train de vous parler combien de fois j'ai mentionné journalisme journalistique, CBC Radio-Canada, dont absolument je partage ce parcours-là. Et même sur le terrain, lors des entrevues, lors des discussions individuelles et des discussions de groupe, je me suis parfois retrouvée à expliquer mon travail journalistique. Parce que de la même manière que je voulais apprendre des gens, que j'ai rencontré, il y a des gens qui voulaient également apprendre de mon parcours. Qu'est-ce que ça fait une journaliste? Qu'est-ce que ça mange avant le téléjournal? Ça se passe comment? Quelles ont été les appréciations que vous avez eues de telle ou de telle autre actualité? Oui, on a eu ce reportage-ci, mais quel a été le processus en arrière-plan? Donc, absolument, c'est une expérience que je partage aussi bien aux médias en parlant de mon ouvrage, mais une expérience que je partage dans des groupes peut-être plus réduits, moins publics, et une expérience dont je suis certaine, lors de la rencontre avec l'Amicale de la Francophonie, étant ici au Manitoba, ils m'ont vu faire les médias sur les ondes de la radio universitaire, dans le journal écrit de l'université. Ils m'ont vu commencer à Radio-Canada et ils m'ont vu devenir chef d'antenne et présenter leur téléjournal. Et je suis certaine qu'on reviendra sans doute sur ce parcours une fois de plus.
Et en parlant d'accomplissement, à quel moment avez-vous décidé de vous mettre sur la route pour découvrir les différentes communautés et régions du Canada?
En 2023, quand j'avais le sentiment d'avoir accompli des choses qui me semblaient essentielles dans l'emploi journalistique que j'avais entrepris à Radio-Canada, j'avais le sentiment d'avoir reçu l'essentiel de ce que le média tel qu'il existait pouvait m'offrir. Et comme je vous l'ai dit, j'avais faim, j'avais soif d'autre chose. Bien, bien au-delà de l'aspect matériel pécunier, la bête intellectuelle à moi avait faim. Et donc, c'est en 2023, je dis, c'est maintenant ou jamais. C'est un projet qui se veut colossal, c'est un projet qui se veut dispendieux, mais c'est un projet qu'il faut faire à un moment et je l'ai fait.
Que pouvez-vous nous partager des régions visitées au Canada?
Je vais commencer par la Nouvelle-Écosse, vu que vous êtes à Halifax. C'était pas la première région que j'ai visitée, mais en tant que personne, en tant que femme noire, la Nouvelle-Écosse a été, au-delà de mon projet littéraire, a été un bon pèlerinage pour moi, pour parler des identités, pour ancrer davantage l'histoire des Afro-Canadiens. Parce que c'était assez gratifiant d'arriver dans une province comme la Nouvelle-Écosse, au-delà des problèmes qui sont propres à toutes les régions du Canada, hein, que ce soit la crise du logement, le système de santé, que les soucis liés à l'immigration, de trouver une communauté, des communautés, il faudrait que je le mette ainsi, noires solidement établies, où l'expression afro-néo-écossais est tellement bien ancrée, où quand on me demandait d'où est-ce que je viens, on ne voulait pas renvoyer à mes origines d'Africaine récemment arrivée au Canada, notamment venant du Cameroun. Je me rappelle, j'étais dans un bus qui m'amenait en Antigoniche et des jeunes avec lesquels je voyageais demandaient si je venais de villages environnants. Ça, c'est au-delà de l'aspect littéraire. Vous voyez, c'est une richesse. C'est une richesse pour le Canada. Évidemment, il y a le travail que fait la francophonie dans les maritimes. Vous voyez la place du français, la richesse de la langue française, l'histoire de résilience des Acadiens. Ça, ça donne un sens aux efforts qui sont fournis, de voir le Canada comme un tout. Évidemment, vous revenez dans l'Est, en Ontario, aussi bien au Québec que à Toronto, des réalités qui sont propres à chacune des provinces, mais aussi des ponts qui se font. Quand vous prenez l'Ontario et le Québec étant une nation distincte au sein de l'Amérique du Nord, avec la particularité d'être la province francophone, avec comme langue officielle le français, les communautés, les combats, les réalités, les victoires, les peines. Mais je découvrais également c'est un problème dont je n'avais pas forcément conscience. Vous savez, on a longtemps parlé de la crise du logement. Moi-même, en tant que journaliste ou chef d'antenne, j'en ai énormément parlé, voyez-vous, mais mettre des visages sur des jeunes qui traversent ces crises-là, je découvrais un phénomène qui touchait les femmes particulièrement, qui se retrouvaient prisonnières de prédateurs sexuels parce qu'elles avaient besoin de trouver un logement. On parle souvent de tous les problèmes de santé mentale pour les jeunes. Et j'arrivais en Ontario, je rencontrais des jeunes étudiants qui soient issus de l'immigration récente, des étudiants internationaux ou même des communautés déjà établies, qui me parlaient de cette pression-là. En Ontario, dans l'ouvrage, je reviens sur le récit des jeunes qui viennent d'Asie et qui se retrouvent dans des collèges alors qu'ils pensaient aller dans des universités, ces écoles un peu clandestines qui ont quand même eu leur moment partout au Canada et particulièrement en Ontario. Mais aussi, une fois de plus, la résilience des gens que je connaissais dans mon parcours qui ont évolué, qui ont avancé, les aînés qui ont bâti ce pays et qui le voient quand même dans certains aspects tomber un peu en décrépitude, notamment en parlant du système de santé, vous voyez. Et si on revient au Manitoba, qui est un peu la maison, évidemment, je l'ai dit, le Manitoba était un peu en période de lune de miel avec l'arrivée de Wapkinou et du MPD, mais le Manitoba se tenait debout avec toute l'actualité qui a été liée à la fouille du dépotoir après la mort, l'assassinat de femmes autochtones, une fois de plus de femmes autochtones et la condamnation du tueur en série. Si on va en Alberta, en Colombie-Britannique, évidemment, aussi tous les mouvements de la manière dont les enjeux internationaux façonnaient le Canada. Parce que j'étais sur la route lorsque la crise au Moyen-Orient a pris de l'ampleur, parce qu'elle existait déjà, mais a pris de l'ampleur. Et comment cela vient chercher les communautés au Canada de manière toute particulière, parce que nous sommes un pays finalement mosaïque avec des personnes qui viennent de partout dans le monde. Ou quand les gens vous parlent de cette crise-là, ils ne vous parlent pas d'une crise qu'ils ont vue à la télévision. Ils vous parlent de leur père, de leur oncle, de leur famille éloignée qui sont directement touchés par ces conflits qui se passent quand même à des milliers de kilomètres du pays. Maintenant, on va dans le Nord et je dis le Nord a été une grâce. Que ce soit la ville de Yellowknife, que ce soit Hay River, Inuvik, Fort Smith, l'Arctique dans sa globalité, toutes ces régions-là avaient tellement de choses à m'enseigner, tellement de choses à m'apprendre de toutes les communautés, qu'elles soient de Première Nation, qu'elles soient, comme je le dis toujours, qu'elles soient de générations différentes, dans la diversité au niveau des âges, quelle soit la diversité au niveau des appartenances régionale à travers le monde. C'était une richesse sans pareil.
Et comme vous avez déjà amené le thème de la femme, j'aimerais dire que le 25 juillet est désigné comme la Journée internationale de la femme et fille de descendance africaine. Et mademoiselle Laïssa, quelle a été la personne qui vous a influencé pour devenir la femme engagée que vous êtes maintenant?
Ma mère et ma grande sœur. Ma mère et ma grande sœur, parce que j'ai dit le voyage, ma mère est celle qui m'a présenté, qui m'a amené en voyage et qui a normalisé le voyage, le fait de se déplacer, le fait d'avoir des activités, le fait d'être une femme en action, le fait d'être une bâtisseur de la nation, en fait. Donc, en ce sens-là, évidemment, son éducation par la suite et son accompagnement, son soutien. Au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, je vous le dis souvent, à bien réfléchir, je me demande si j'avais été ma mère à moi. Donc, si je donne naissance à une fille qui est exactement comme moi, je ne sais pas si je ferais une bonne maman pour elle tout autant que ma mère a été une mère pour moi. Ma grande sœur, en ce sens, est que ma mère étant très active, depuis mon tendre enfance, ma sœur a toujours été le relais de ma maman. Elle a toujours été le modèle. Pour la petite anecdote, ma sœur pouvait souvent être assez têtue, mais elle ne tolérait pas que je m'écarte. Vous voyez un peu, elle peut commettre des bêtises, mais j'ai pas intérêt à en commettre, au fait. Et elle pouvait me blâmer, mais elle ne permettait pas que quelqu'un d'autre me blâme, au fait. Elle était un peu mon guide, mon modèle, mais aussi celle qui me protégeait énormément. Et ces deux femmes ont toujours cru en moi, parfois bien plus que moi-même. Vous savez, parfois, on va chérir des rêves. Le livre, aujourd'hui, c'est ce dont on fait mention, mais quand je regarde mon parcours de mes premières années d'école à l'obtention de mes diplômes universitaires et post-secondaires dans leur globalité, ma mère et ma sœur ont toujours été les piliers sur lesquels je pouvais m'appuyer, et c'est toujours les premières personnes qui, même dans la peur, m'encourageait. Et d'ailleurs, en préface de mon ouvrage, je reviens sur un commentaire de ma mère qui me confie en 2024 que j'étais appris à voyager, mais je t'ai également laissé voyager énormément. Ne pense pas que j'avais pas peur quand tu partais. Jusqu'aujourd'hui, j'ai très peur quand tu pars, mais je me dis que tu dois pouvoir voler et voler le plus haut possible.
Et en parlant de modèle, parce que c'est un message très très important que vous venez de partager avec nous, ma question est, que pensez-vous de mettre en place une radio des descendants africains pour raconter nos histoires de notre manière et d'apprendre les uns des autres ici au Canada?
J'ai souligné le fait que la Nouvelle-Écosse a été, au-delà du projet littéraire, un bon pèlerinage. Je ne vais pas mentir que je suis retournée un peu plusieurs fois depuis lors, parce que j'ai découvert une communauté qui m'a fascinée. L'histoire des peuples noirs au Canada est une histoire ancré, mais pas bien connu. Il est important pour les communautés noires, vous voyez, je dis les communautés noires parce que nous sommes aussi, c'est pas un tout homogène, nous avons des combats similaires, et la variété, la richesse de ces communautés-là mérite d'être connue, d'être partagée. Alors avoir un média pas et pour les communautés noires à travers le Canada ne peut être que salutaire, surtout en ce temps où la communication n'a jamais été autant essentielle dans la construction des identités Hein, parce que quand je parle de communauté au pluriel, c'est parce qu'en fonction des groupes, les enjeux parfois vont être variés et variables. Mais je voudrais aussi revenir avec une image que j'aime bien utiliser. Dans les villages en Afrique, on a ce qu'on va appeler les chantres, les compteurs. Il y a le compteur du village, il y a le compteur du roi, il y a le compteur des familles, comme des griots. Il y a plusieurs griots dans un village. Alors, il est essentiel pour les communautés noires d'avoir leurs griots qui maîtrisent leur histoire, leur ancestralité, pour pouvoir transmettre leurs histoires, leurs actualités dans le tempo, le ton qui convient. Mais il faudrait pas que ces initiatives nous excluent des grands. Des contes du griot du village qui raconte tout le village, et dans ce cas au Canada, du gros média, des gros médias comme les CBC Radio-Canada, comme les CTV, les Global, et qui racontent les histoires de la nation canadienne. Et cette nation, nous sommes intrinsèquement liés à cette nation, et cela devrait être une complémentarité, mais une complémentarité et surtout pas une séparation ou une mise en retrait. Donc il faut travailler sur les deux fronts, si on va dire ça comme ça, s'assurer de raconter nos histoires comme on les entend, comme on les vit, mais s'assurer et de garder cette présence dans le récit global de la nation.
Et pour conclure cette interview, mademoiselle Laïssa, pouvez-vous nous rappeler encore une fois comment on peut se procurer, pardon, votre livre?
Oui, l'ouvrage Au Canada, immersion dans un pays en mutation, qui est publié aux éditions de la Francophonie. L'ouvrage est disponible pour ceux et celles qui souhaitent avoir des versions dédicacées. J'aimerais pouvoir reparcourir l'entièreté des villes, des provinces et des petits villages où j'ai été pour la réalisation de cet ouvrage. Mais actuellement, je n'ai pas forcément tous les éléments réunis pour le faire, mais ceux et celles qui souhaitent avoir les versions dédicacées peuvent me contacter directement à l'adresse laissapamou.auteur@commercialgmail.com. Vous pourrez également ajouter cette adresse courriel dans votre publication. Sinon, l'ouvrage, vous pouvez également l'avoir via le site internet de la maison d'édition, les éditions de la Francophonie, via le distributeur de la maison d'édition qui est AN Boutique, via votre libraire, où que vous soyez. Donc, vous pouvez passer par votre libraire pour commander l'ouvrage. Donc, vous avez accès à l'ouvrage où que vous soyez. Et si vous êtes des amateurs de réseaux sociaux, et vous pouvez me contacter également directement via mes plateformes sociales, qui est d'ailleurs un des points de contact que votre média a utilisé pour pouvoir me joindre initialement. Donc, pour dire que ça fonctionne, il faudrait passer par ces plateformes-là, et le reste, on pourra s'en occuper, s'assurer que vous ayez l'ouvrage dédicacé au besoin.
Merci Laïssa Pamou d'être venue sur notre émission Impact et sur Mucho Radio et nous vous souhaitons plusieurs succès.
Merci beaucoup et excellente journée à vous.
Merci.